Je salue ce matin tous les gens, toutes les personnes qui m'écoutaient. Et nous allons tourner dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 13. Chapitre 4, verset 13. Où il est dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, car qu'est-ce que votre vie? Le titre du message ce matin, les leçons du coronavirus. Les leçons du coronavirus. Donc, la situation à ce jour de la COVID-19. Environ 37 millions de cas recensés dans le monde, plus de 1 million de décès, selon les chiffres naturellement. Plus près de nous, si la pandémie actuelle dure plus de 6 mois, on dit que 19% des entreprises estiment ne pas pouvoir poursuivre leurs activités et à recourir à des solutions allant même jusqu'à la faillite. Les voyages, les déplacements, les rassemblements publics sont restreints. Le culte du dimanche pour les églises est restreint à 25 personnes. Les cinémas, les musées, les restos, les salles de sport ont tous été fermés. Les déplacements entre régions pour la province de Québec ne sont pas recommandés. Alors, à ce stade, beaucoup de pays dans le monde sont paralysés. Compagnies aériennes, l'industrie touristique, le monde sportif. Bref, il y a des mises à pied, il y a du chômage, il y a des retards dans le système de la santé. Donc, rien de réjouissant. Et le monde entier attend le remède miracle qui arrêtera ce virus, il va sans dire. Ma question, comment devrions-nous en tant que chrétiens apprendre face à cette crise? Devons-nous regarder au cœur de la tempête et nous demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne au travers de tout cela? Voici 8 leçons que nous pouvons apprendre ou réapprendre de cette crise de la COVID-19. Premièrement, notre fragilité. La Bible mentionne « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Je dirais que cette crise globale nous montre à quel point les êtres humains que nous sommes sont fragiles. Au moment où je parle, il y a une certaine tension à travers le monde. Il est dit que nous faisons de notre mieux pour limiter la propagation, de recourir à des moyens tels que le port du masque, le confinement et la distanciation sociale. La plupart des gens pensent ou sont plutôt confiants qu'ils vont finir par passer à travers, et d'autres ne semblent pas y croire. Et même si nous y arrivons, il n'est certainement pas exclu, selon des experts, évidemment, qu'un autre virus apparaisse, un virus plus agressif et contagieux que la COVID-19. Et face à une telle menace très probable, serions-nous capables de passer à travers avec des directives ou des confinements plus sévères? Et la réponse est clairement très difficilement. Pourquoi? Parce que nous sommes fragiles et faibles. notre fragilité. Les mots du psalmiste prennent tout leur sens ici. Dans Psaume 103, verset 15, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est bon ça. Comment s'approprier et comprendre cette leçon de notre fragilité? Peut-être en nous rappelant de ne pas prendre nos vies sur terre pour acquises. La Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Je ne m'étais pas rendu compte de la fragilité d'une de mes dents jusqu'au jour où je l'ai cassée. Pourtant, ma dentiste m'avait prévenu que j'avais une dent plutôt fragile. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai croqué un morceau de chocolat noir. Et justement, je l'ai croqué avec cette dent-là. Et un morceau de ma dent a cassé. Pourtant, mes dents sont en bonne santé. Nous sommes fragiles. Et pas seulement les aînés, les personnes âgées, mais tous en tant qu'êtres humains. Santé émotionnelle, notre santé physique, notre santé financière, notre santé, je dirais, familiale, collective, notre santé même spirituelle. Et ce n'est pas quand tout va pour le mieux que l'on s'aperçoit de sa fragilité. Mais ce sont quand les maux arrivent, quand l'adversité est à notre porte. C'est quand ça va bien, tout va bien. Mais quand il arrive quelque chose, il arrive un malheur, il arrive une maladie, il arrive la perte d'un être cher, et cela nous affecte. Et c'est là qu'on voit qu'en tant qu'être humain, nous sommes fragiles. Et c'est certain que l'histoire de la COVID-19 nous a touchés, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau financier. Il y a eu des conséquences. Deuxième point, j'aimerais regarder avec vous. Nous sommes tous égaux. Ce virus dépasse les différences ethniques ou les frontières. Ce n'est pas un virus chinois. Ce n'est pas un virus français ou autre. C'est notre virus. C'est le virus qui touche toute la Terre. Il touche l'Afghanistan, il touche la Belgique, le Cambodge, le Danemark, la France, les États-Unis. Toute la planète a été touchée. Nous sommes tous membres de la grande famille humaine, tous créés à l'image de Dieu. La couleur de notre peau, la langue que nous parlons, nos accents, notre culture ne font aucune différence face à la situation que l'on vit présentement. Aux yeux du monde, peut-être, nous sommes différents, mais face à ce virus, nous sommes tous égaux. Et c'est peut-être une des choses que nous rappelle justement la COVID-19. Dans les moments de souffrance, dans les moments de deuil, nous sommes égaux, faibles et à court de réponse. Nous avons tous une connaissance dans un centre de personnes âgées. Nous avons tous quelqu'un à notre travail ou dans notre famille qui est affecté par cette situation. Je pense que notre vision notre préoccupation venant de notre société très individualiste et égoïste a changé pendant le confinement. Et j'espère que cette situation va justement changer notre façon de penser et voir d'avoir une vision un peu plus collective. Ce n'est pas seulement le Québec qui est confiné, mais le reste du monde. Je lisais justement dans un article récent, et je cite, alors que le monde entier s'inquiète du problème réel ou imaginaire du virus dans leur environnement immédiat, la plus grande prison du monde a été érigée en Inde. 1,38 milliard de personnes sont en résidence surveillée, sans possibilité de quitter la maison. Le premier ministre indien a toutefois pensé qu'il pourrait imposer un couvre-feu draconien sans aucun soutien juridique. Dans ce qui est l'une des sociétés les plus indisciplinées, chaotiques, pauvres au monde. Le 24 mars 2020, il est venu à la télévision pour déclarer qu'il y aurait un verrouillage complet et total partout dans le pays pendant les 21 prochains jours. Il a ordonné que les gens ne devaient pas quitter la porte de leur maison, sortir pour se promener ou promener leurs chiens, et que tous les bureaux, les usines, les magasins devaient être fermés. Toutes les autoroutes et les routes devaient être également bloquées. L'un des plus grands réseaux ferroviaires s'est arrêté brusquement pour la première fois de son histoire en 167 ans. Les trains se sont arrêtés et même les vols domestiques comme internationaux ont été annulés. La seule partie de l'économie qui devait être encore ouverte était les cliniques médicales et les épiceries. Comment les gens achèteraient de la nourriture s'ils ne pouvaient pas quitter la maison? Quelques jours plus tard, lorsque le gouvernement a réalisé son erreur, une fenêtre pour laisser les gens sortir pour acheter des produits d'épicerie a été ouverte. Les légumes ne devaient être fournis que par des fourgonnettes gouvernementales qui venaient par une fois par jour, une fois ou deux jours, une fois ou trois jours pour la population. Alors cette nuit-là, lorsque le premier ministre s'est adressé à la nation, le pays s'est arrêté. Et même des dizaines de millions de travailleurs migrants et rémunérés par jour sont restés bloqués dans les villes. Affamés et sans abri, les travailleurs venant de l'extérieur sont restés coincés dans de bien mauvais endroits. Ils sont entrés dans un monde fataliste et ont commencé leur longue marche vers leurs lieux ruraux, dans de nombreux cas en marchant 1000 kilomètres. Et plusieurs personnes sont décédées. Il n'y avait pas de mécanisme de nourriture disponible pour nourrir tous ces gens. Alors, il s'en est suivi une économie indienne impossible à redémarrer avec de la criminalité, des abus et de l'exploitation. Troisième point que j'aimerais souligner ce matin, notre perte de contrôle. Nous aimons en tant que Nord-Américains avoir un certain contrôle sur les choses, n'est-ce pas? Souvent, nous pensons que nous sommes les capitaines et maîtres de notre destinée. Une certaine autonomie financière, loisir de choisir ce que nous mangeons. On peut manger bio, on peut manger vegan, on peut manger céto. Plusieurs choix de supermarchés, d'épiceries. Nous décidons pour les loisirs de nos enfants. Ça peut être la musique, les sports, les langues. Tandis que pour les automobiles, nous avons des choix. Automobiles compacts, automobiles hybrides, automobiles électriques, VUS. Et même nos logements, maisons familiales, jumelées, condos, chalets, logements. La réalité, frères et sœurs, la réalité nord-américaine est telle que de nos jours et plus que jamais, nous pouvons contrôler une bonne partie de notre vie. Nous pouvons contrôler le chauffage et la sécurité de nos maisons à distance. Nous pouvons transférer de l'argent à travers le monde en un clic via des applications. Et j'ajouterais que nous pouvons même contrôler nos corps grâce à de l'entraînement et de la nutrition appropriée, et même les modifier avec la chirurgie esthétique. Mais peut-être que cette sensation de contrôle est une illusion, une bulle que le coronavirus a éclaté en révélant la vérité. Sommes-nous si en contrôle de cela, de tout? Est-ce que la situation de la COVID-19 est sous contrôle? Et qu'en est-il de nous? Armés de nos sprays désinfectants, notre confinement, notre 2 mètres entre chaque personne, nous essayons de réduire les risques d'infection, puis il n'y a rien de mal à ça. Mais sommes-nous au contrôle de la situation? Parce qu'il va y avoir des conséquences. Peut-être une année scolaire compromise, peut-être une faillite, peut-être un divorce, un endettement. Selon une analyse du Royaume-Uni, les conséquences du coronavirus, des décès plus précoces pour les personnes atteintes de cancer en raison de retard de diagnostic et de traitement, des pertes financières dans les entreprises entraînant davantage de faillites, des pertes d'emplois entraînant une mauvaise santé, des problèmes sociaux et des suicides. Moins de contribuables disponibles pour financer un besoin croissant de prestations sociales. Perte d'opportunités éducatives et interruption des examens et des diplômes. Une période inflationniste, alors que le gouvernement imprime et emprunte davantage, tandis que les recettes fiscales baissent, les valeurs des pensions réduites par les crashs boursiers, l'espérance de vie même réduite pour les personnes plongeant davantage dans la pauvreté. Oui, effectivement, une perte de contrôle. Malgré que le gouvernement nous donne leur juste concernant la situation au pays, il va sans dire que cette situation nous a fait réaliser que nous n'avons pas le contrôle de tout. Quatrième point. Être exclu est une souffrance pour tous. Au début de cette crise, les personnes âgées se sont senties en quelque sorte lésées face aux décisions du gouvernement de les confiner davantage. Et aujourd'hui, ce qui fait très mal en ce moment, c'est l'exclusion de rassemblements, le démembrement familial. Être exclu et isolé n'est pas une chose facile à gérer puisque nous avons été créés pour les relations humaines. Mais malheureusement, de nombreuses personnes doivent désormais faire face à l'isolement. Je dirais que c'est une expérience que la communauté des lépreux du temps de Jésus connaissait très bien. Forcés à vivre seuls, marchant dans les rues de leur ville natale, en criant « Impur, impur ». Pourquoi qu'ils criaient ça? Si on retourne dans Lévitique chapitre 13, verset 45, il est dit que le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur et il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Et si on va aller encore plus loin, je pourrais dire que même Jésus a été obligé d'être en confinement car il y avait un complot pour le faire mourir. Nous voyons ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 54. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Avec qu'est-ce qui arrive? Allons-nous changer notre façon de voir la réalité et de penser plus aux autres et moins à nous? Je parle des personnes âgées qui n'ont pas eu la possibilité d'être, ils sont confinés, ils n'ont pas eu la possibilité d'être visités comme avant. Je pense à des gens qui ont un certain handicap. Je pense à des gens qui sont pauvres, alors que pour la situation est extrêmement difficile pour eux. Je parle pour la séparation d'un couple avec les enfants. C'est là qu'on voit que la souffrance de l'exclusion, comment cette pandémie a amené les gens à vivre différemment. Il y a bien des années, parce que son corps n'avait pas de défense immunitaire contre la maladie, David, 3 ans, résident du Texas, vivait dans une bulle en plastique et les médecins disaient qu'il n'y avait pas de remède et qu'il devait se résilier à vivre de cette façon le reste de sa vie. Même les bactéries que la plupart des gens peuvent supporter pouvaient le tuer. Depuis 3 ans, il respirait l'air filtré, mangeait de la nourriture stérile et n'était câliné que par les mains portant de gros gants en caoutchouc noir qui s'étendaient à travers le mur de sa bulle. Cinquième point, j'aimerais regarder avec vous, la différence entre la peur et la foi. Quelle est la réaction face à cette crise? C'est facile d'être saisi par la peur et de voir le coronavirus partout où nous regardons. Le clavier de nos ordinateurs, dans l'air que nous respirons, à chaque contact physique, à chaque coin de rue, sommes-nous en train de paniquer? Sommes-nous dans une hystérie collective? Ou peut-être cette crise nous met au défi de réagir différemment, avec la foi et non par la peur. Pas la foi dans les étoiles, ni dans le destin, ni en une divinité inconnue, mais plutôt la foi en Jésus-Christ, le bon berger, qui nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Assurément, Jésus est le seul à contrôler cette situation. Assurément, il est le seul à pouvoir nous guider à travers cette tempête. Il nous appelle à lui faire confiance et à croire, à avoir la foi et ne pas avoir peur. Jésus a dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? » Si nous prenons l'exemple de Job, comme nous le savons tous, il est écrit dans la Bible que lorsque Job a perdu ses biens et ses enfants, et que des ulcères douloureux ont germé sur son corps, il a rendu un meilleur témoignage à Dieu et a prononcé les paroles classiques. « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous voyons ça dans Job chapitre 1, verset 21. Et un peu plus tard, il dira, « Nous recevons de bien, de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Lorsque les grandes épreuves se sont abattues sur Job, il n'a pas raisonné avec les gens ni a cherché de cause extérieure. Il est venu devant Dieu pour prier et chercher sa volonté. Il savait que les épreuves qu'il rencontrait étaient permises par Dieu et n'émanaient pas de la main de l'homme, même si elles étaient les tentations de Satan. Il avait la foi à la souveraineté de Dieu. Il savait que les impondérables du sort de l'homme sont entre les mains de Dieu et que rien ne lui arriverait sans la permission de Dieu. Il croyait également que tous les biens qu'il possédait dans la vie étaient donnés par Dieu et ne venaient pas de ses propres efforts. Et lorsque Dieu a voulu lui enlever tout ce qu'il possédait, il a pensé qu'il était naturel pour Dieu de faire cela et il n'a pas discuté des conditions et ne s'est pas plaint contre lui. Alors, durant les épreuves, Job a cru à la souveraineté de Dieu. Il a rendu gloire à son nom. Il a finalement porté un témoignage fort et retentissant. Alors, je dirais aujourd'hui, sommes-nous seulement dans la peur? Et non, la foi? Est-ce qu'on peut enlever un peu plus de peur et mettre un peu plus de foi? Et faire confiance à Dieu dans les épreuves que nous vivons. Sixième point, notre besoin de Dieu et notre besoin de prier. Au milieu d'une crise mondiale, comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, faire une différence? Souvent, nous nous sentons si petits et si insignifiants et beaucoup de choses nous dépassent. Mais nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire appel à notre Père Céleste. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors, mes amis, il faut prier. Priez pour les autorités qui dirigent nos pays et nos villes. Priez pour qu'est-ce qui se passe présentement. Priez pour les hommes et les femmes, les enfants qui sont affectés par cette crise. Priez pour les personnes qui ont même peur de quitter leur maison, les personnes qui sont seules, les personnes qui ont perdu leur emploi, et ceux qui ont une détresse psychologique. S'occuper des personnes âgées. Prier pour que le Seigneur nous protège et nous garde dans ce temps qui est difficile. Prier également pour que le Seigneur Jésus revienne. Prier pour l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, mes amis, il y a un espoir. On sait qu'il y a un espoir pour le futur. On sait qu'il y a un espoir qui s'en vient. Nous devons prier. Septième point, vanité de nos vies. L'Ecclésiaste a dit, Vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Il est si facile de perdre perspective au milieu de la frénésie de nos vies. Nos journées sont si pleines de projets, de travaux, de listes de souhaits, de vacances, que nous avons du mal à distinguer l'important de l'urgent. Et bien souvent, nous nous perdons, frères et sœurs. Peut-être que cette crise nous rappelle ce qui est vraiment important dans nos vies. Peut-être qu'elle nous aide à distinguer entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui est utile et ce qui est inutile. Peut-être qu'il va y avoir certaines priorités dans nos vies qui vont changer. Peut-être que le coronavirus va nous enseigner ce qui compte vraiment. Salomon affirme que les hommes ne retirent pas beaucoup d'avantages ni de profit de tout leur labeur. Il emploie cette expression 29 fois dans l'ensemble du livre de l'Ecclésiaste. Souvent à propos du travail de l'homme. Il soutient cette thèse en se référant au cycle incessant des générations et de la nature. Il en conclut que le travail de l'homme ne procure aucun résultat permanent et durable. Deux choses qui ressortent de ces écrits. Le caractère éphémère de toute vie humaine, contrairement à la terre qui subsiste. Tout être humain est transitoire, simple maillon de la chaîne des générations. Deuxième chose, l'inefficacité du travail illustrée par l'activité incessante de la nature. Le soleil et le vent sont en mouvement perpétuel, mais n'atteignent jamais un but. Et rien n'arrive ni n'est accompli qui soit vraiment nouveau comme les cycles de la nature. Ce qui en ressort, c'est que même les efforts de l'activité humaine ne peuvent corriger toutes les irrégularités ni contrer tous les défauts évidents de la nature de la vie. Il faut penser à ça. Vanité de nos vies. Le huitième point, j'aimerais regarder le dernier. Sommes-nous prêts? En un sens, la question la plus importante n'est pas « Quel espoir avez-vous face au coronavirus? » Les médias, politiciens et la plupart des gens ne parlent que d'une chose, avoir un vaccin. Et je dirais, est-ce que le vaccin, si attendu, va régler une situation qui a été longuement orchestrée depuis plusieurs années par l'élite mondialiste? Et nous avons tellement de questions, d'interrogations, d'incertitudes par rapport à ce vaccin et à ces vaccins, je dirais. Je pense qu'il n'y a seulement qu'une question qui demeure. Advenant toutes circonstances dans nos vies, sommes-nous prêts à faire face à la mort? Avons-nous une certitude quant à une vie après la mort? Avions-nous une espérance? Avons-nous mis notre confiance en Dieu? Pour les gens qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu, en tout cas le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures. Jésus est venu nous avertir de l'existence d'un virus beaucoup plus meurtrier et répandu. Un virus qui a frappé tous les hommes, femmes et enfants. Un virus qui se termine non seulement par une mort certaine, mais par une mort éternelle. Notre espèce, selon Jésus, vit sous l'emprise d'une épidémie pandémique d'un virus appelé le péché. Avons-nous un espoir face à ce virus? Et l'histoire de la Bible est l'histoire d'un Dieu qui est descendu dans un monde infecté par ce virus. Jésus vivait parmi les personnes malades, ne portant pas de combinaison de protection chimique, mais respirant le même air que nous, mangeant la même nourriture que nous. Il est mort en étant isolé, exclu de son peuple, semblant loin, et bien sûr, il a été infecté et tué. Il est mort dans l'isolement, exclu de son peuple, visiblement loin de son Père sur une croix. Tout cela pour qu'il puisse donner à ce monde malade un antidote au virus, pour qu'il puisse nous guérir et nous donner la vie éternelle. Et je termine avec ces paroles. Jésus a dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous voyons ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Et concernant les chrétiens, ceux qui ont mis leur espérance en Jésus, sommes-nous prêts à faire face au tribunal de Christ? Avons-nous obéi à ce que le Seigneur a demandé? Avons-nous obéi à ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs? Avons-nous répondu avec tout ce qui nous a donné comme opportunité, comme travail à faire, d'évangéliser, d'apporter le message de l'Évangile aux nations? De travailler pour son royaume, de faire partie d'une église, de donner de notre temps, de donner notre au point de vue financier également. Ou bien nous nous sommes écartés de ces ordonnances et nous avons vécu un peu d'une façon très légère, n'ayant aucun zèle pour l'Évangile comme l'apôtre Paul. À la limite, est-ce que nous allons perdre notre récompense? Avons-nous obéi au Seigneur dans toutes choses, dans les moindres petites choses? Alors, si c'est oui, amen. Si c'est non, c'est le temps vraiment de se reconsacrer. C'est le temps vraiment de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans un temps comme on vit présentement, dans un temps, dans une période difficile? Qu'est-ce que tu me mets à cœur? Quel ministère? Quelle église? Ranime le don qui est en moi. Par le Saint-Esprit, afin que je puisse témoigner, afin que je puisse être à l'œuvre pour le temps qui reste. Mets-moi ce désir-là dans mon cœur, afin d'avoir part à une récompense et d'amener la lumière dans ce monde. Amen.